Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour, bienvenue dans cette émission préparée par Laure Grand Besançon et Camille Groc, réalisée par Eliane Girard et mise en musique par Muriel Pérez, aujourd'hui à la technique, Tristan Gratalon. La gourmandise de ce matin, c'est un traité paru en 1665 et signé de l'inventeur du mot « cellule ». Micrographia, du scientifique britannique Robert Hooke. À 28 ans, Hooke observe les insectes et les plantes avec des lentilles optiques et des télescopes. En résulte un ouvrage enrichi de magnifiques gravures n'ayant rien à envier à un illustré de science-fiction. Plongé dans un œil colossal de puce, le lecteur se trouve ensuite nez à nez avec de gigantesques poux et moucherons qui semblent nous inviter sur leur dos. Le gros plan d'un regard de mouche aux yeux de nylon achève de dissiper ce qui nous reste de candeur. Impossible d'échapper au fatal et grisant constat, tout ce qui nous entoure, une fois agrandi, devient monstrueux et sublime. Dès son plus jeune âge, notre apothicaire de l'âme migre de la Nièvre à l'Isère, plus précisément à Bourgoin-Jallieu, où sa mère transforme une buvette en restaurant de renom. Un jour, la mère magicienne fait des langues de chat. L'enfant est émerveillé par la transformation des produits, processus alchimique qui n'aura de cesse de le fasciner. À 16 ans, il entre en apprentissage chez le maître chocolatier Louis Marchand, puis chez les frères Trois Gros à Roanne pendant 3 ans. Suivront Lasserre à Paris, le Lion d'Or à Coligny et l'Oasis à la Napoule. En 1977, il succède comme chef à Bernard Loiseau à la Barrière de Clichy, mais au mot chef, notre apothicaire préfère ceux de cuisinier ou d'aubergiste. 3 ans plus tard, il ouvre son premier restaurant dans le 16e arrondissement et commence à être auréolé d'étoiles. Il déménage, entoure sa maison mère de satellites et continue depuis d'accueillir les astres de Michelin et les éloges des bouches exaltées par ses créations. Bonjour Guy Savoy.
Bonjour, merci.
Guy Savoy, en lisant vos interviews, je me rends compte que vous n'êtes pas un être mélancolique. La première question de l'émission, c'est quel rapport entretenez-vous avec la mélancolie ? J'ai l'impression que vous êtes plutôt quelqu'un qui est dans la colère. Vous vous dites vous-même soupe au lait, et soupe au lait, c'est plutôt un élan vital.
Oui, c'est un élan vital. En fait, c'est de la protection. Enfin, je vais vous dire, bon, je suis peut-être pas mélancolique, mais les quelques mots que vous venez de dire qui m'ont plongé dans un passé pas si lointain, m'ont ému. Voilà, je voulais vous en remercier.
Bah écoutez, c'est à mon tour d'être ému par ce que vous venez de me dire. Il y a un ouvrage, Guy Savoy, du psychiatre genevois François Ladame, oui. Un psychanalyste chez Guy Savoy. Et dedans, on peut lire, comme tous les créateurs, il abrite en lui ce que j'appelle un noyau mélancolique dur qui se manifeste par des réactions anxieuses. Pour se prémunir contre cette menace intérieure qui le titille de temps en temps, il développe une énergie pulsionnelle intense. Il paraît que vous avez l'obsession de la mort.
Oui, mais je sais pas qui ne l'a pas. Bien sûr que, et puis ce métier de cuisinier, je le fais bien sûr. C'est la cuisine, c'est l'ode à la vie, quoi. On est dans le, on travaille des produits qui sont, donc on ne peut pas être plus dans le concret. Ces produits, on les fait passer de l'état de comestibilité à l'état de plaisir. C'est-à-dire qu'on leur donne une deuxième vie pour son propre plaisir, déjà. Moi, je suis toujours aussi émerveillé par cette transformation magique. Vous avez eu la gentillesse de rappeler avec les langues de chat. Pourquoi ces langues de chat m'ont fasciné? Quand j'ai vu ma maman qui mélange du sel, pensez, du sel dans un gâteau sucré. C'est déjà, je suis interpellé. Après, du sucre, de la farine, des œufs, du beurre. Vous dites tout ça, tous ces ingrédients pris séparément n'ont aucun intérêt. Elle les mélange, ça fait des tout petits boudins qui vont s'aplatir, qui prennent une belle couleur brune. Ça sent bon dans la cuisine. Quelques secondes après la sortie du four, c'est croustillant. Voilà, pour moi, c'est magique. Et chaque plat qui sort de la cuisine, aujourd'hui, encore, je crois que même plus qu'avant, c'est un émerveillement. Parce que cette transformation instantanée... Il y a des métiers, on est obligé d'attendre. Là, je pense à l'architecte qui, de son premier coup de crayon, et lorsqu'il voit le bâtiment vraiment terminé, il peut se passer des années. Nous, c'est quelques secondes pour un filet de rouget, un peu plus longtemps pour un poulet. Vous allez, mais tout ça est dans un temps tellement instantané, tellement réduit. Et de l'autre côté de la cloison, c'est-à-dire, il y a la cuisine, et de l'autre côté de la cloison, la salle à manger, tout aussi instantanément, des convives vont déguster ce que vous venez de préparer. Déguster, c'est-à-dire ingérer. Vous imaginez à la fois la promiscuité, la confiance, et puis, je sais pas, vous ingérez pas, lorsque vous allez au musée, les tableaux que vous regardez, ou la musique que vous écoutez et tout, là, d'un seul coup, ce qu'on a préparé, de l'autre côté de la cloison, on déguste.
Une sorte de communion charnelle.
Absolument, voilà.
Alors, Guy Savoy, j'insiste un peu sur votre rapport au temps et à la mort, parce que ça revient malgré tout régulièrement dans vos interviews. Et j'ai lu ceci, un jour votre père vous téléphone pour vous annoncer qu'il vient d'acheter sa dernière voiture. Vous ne pouvez pas entendre parler de dernière fois, alors vous lui achetez une nouvelle voiture l'année suivante.
Oui, parce que je trouve, je sais pas, pourquoi parler toujours de dernière. Quelquefois, on m'a demandé aussi quel serait votre dernier repas. J'ai dit, mais ça ne m'intéresse pas, moi. Les fermetures ne m'intéressent pas. Je veux des ouvertures.
Et la mélancolie, aucune?
Si, des doutes, certainement, même très souvent, le doute peut-être parfois transformé en anxiété. Mélancolie, je sais pas. C'est-à-dire que la mélancolie, ce serait peut-être pour moi la définition. Je suis assez contemplatif lorsqu'il y a des paysages ou des lieux uniques. Et à ce moment-là, j'ai une espèce de, même pas de vague à l'âme, mais plutôt je suis impressionné. Donc c'est le fait d'être impressionné parfois vous apaise, vous rend plus petit, quoi, ou humble. Voilà, mais mélancolie, c'est un peu, je sais pas, c'est un mot. Allez,
allez-y.
Je vais le retirer de mon vocabulaire.
D'accord, Guy Savoy. Bon, alors, je vais essayer de pas trop le prononcer, mais ça va être compliqué Bon, alors, j'annonce le sommaire, ce que vous allez convoquer dans quelques instants, Guy Savoy. Frédéric Dard, Véronique Sanson, Michel Audiard, les suites de Bach, la célébration de l'existence, Daniel Soulez, La Rivière, Van Gogh, Balzac et Giacometti, juste après un morceau de Voyou en duo avec Yael, Les bruits de la ville.
Tu verras, c'est ta chance. Les gens viennent ici et tout recommence. Au milieu des bruits de la ville, toi t'arrives toute timide, perdu dans le décor. Le cœur en l'air et les yeux qui dévorent toutes les saveurs de la ville qui t'appelaient entre ses lignes. Solide et sans pitié, les passants s'amassaient dans ses allées, s'élançant comme une rivière, pressés de rejoindre son cœur. Tu te lançais dans sorte.
Remède à la mélancolie sur France Inter en compagnie de Guy Savoie.
Tiens, vous avez sorti le vitriol ?
Pourquoi vous dites ça ?
Et pourtant, l'air honnête.
Sans être franchement malhonnête, au premier abord, comme ça, il a l'air assez curieux.
Il date du Mexicain, du temps des grandes heures. Seulement, on a dû arrêter la fabrication. Il y a des clients qui devenaient aveugles. Alors, ça faisait des histoires.
Allez. C'est du brutal.
Vous avez raison. Il est curieux, hein?
J'ai connu une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. Faut quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme.
1963, Les Tontons Flingueurs de Georges Lautner avec les dialogues mythiques de Michel Audiard et le scénario d'Albert Simonin adapté de son livre Grisby or Not Grisby. Guy Savoie, vous avez choisi la fameuse scène dans la cuisine, c'est la plus célèbre du film et pourtant Audiard la trouvait inutile au début.
Bon, je sais pas s'il la trouvait inutile, mais en tout cas elle est très utile pour notre plaisir. C'est vrai que moi je ne veux surtout pas limiter le cinéma français à ce film et à cette scène, mais je trouve que dans le paysage du cinéma français, ça a une belle gueule.
Ça, je ne peux pas vous contredire. Il paraît, Guy Savoie, que vous parlez très bien l'argot d'Audiard.
Je ne sais pas si je parle très très bien l'argot d'Audiard, d'ailleurs. Bon, mais je pense que Michel Audiard avait cette sensibilité qui lui permettait, je veux dire, de trouver les mots pour les acteurs qui étaient mis en scène, quoi. Les textes étaient évidemment faits, là, pour Ventura, pour Lefebvre, un personnage qui a joué les seconds rôles, qui est Robert Dalban. On l'entend là toute la première dans la première phrase, ouais, yes sir, enfin bon, c'est quand même quelque chose. Bon, c'est tout ça, et ça c'est une époque, et c'est une époque où il y avait des vraies signatures et ces signatures étaient en synergie. Il y avait une vraie synergie entre le metteur en scène, les acteurs, ceux qui faisaient les dialogues et tout, parce que cette scène dans la cuisine, je serais tenté de dire, il y a pas de mise en scène. C'est ça le talent, c'est de faire les choses tellement simplement et naturellement que ça débouche sur cette scène qui devient mythique et qui touche toutes les générations, parce que je vois même mes petits-enfants sont fans.
On reste dans la truculence de la langue.
Je sais pas de quoi j'ai envie, c'est peut-être ça mon drame. J'ai envie de paix surtout, j'ai envie d'avoir une grande paix intérieure. Jusqu'ici je l'ai encore pas eu. Je cherche, il me semble que ça me ferait du bien. Je sais bien que je l'aurai un jour ou l'autre, hein. Mais enfin, la définitive, quoi. Mais avant, je voudrais faire une petite répétition. Me sentir bien dans ma peau un jour ou deux même, vous voyez ? Et ça, j'y suis pas encore arrivé.
On entend la voix d'un de vos auteurs de prédilection, Guy Savoie, l'auteur des cultes aventures du commissaire San Antonio, c'est
oui,
Frédéric Dard.
Pas que les aventures du commissaire, il a fait des vrais romans. Les clés du pouvoir sont dans la boîte à gants. Y a-t-il un Français dans la salle ou texte ? Il a fait la préface d'un livre qui célèbre le château Yquem et qui est un monument, quoi, de à la fois avec des mots simples, d'écrire des sensations que l'on peut tous avoir. C'est très beau, très très beau.
Il est aussi truculent et amateur de langue verte et d'argot, Frédéric Dard, de lyrisme absolu. Il est très poétique.
Très 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 poétique. On le retrouve dans de nombreux textes et puis dans sa vie. C'est vrai qu'il avait il traînait, moi qui le fréquentais beaucoup, et à la fois une joie de vivre et certaines fois un mal-être. Il faut dire qu'il y a quelques événements qui l'ont marqué, quoi. Le kidnapping de sa fille l'a beaucoup marqué. Il pouvait pas s'en, 20 ans après, il en parlait encore en sanglotant. Donc tout ça, bien sûr, c'est que je crois que tous les êtres sensibles, lorsqu'ils ont été marqués au plus profond d'eux-mêmes, il y a des résurgences. Et puis je veux dire, on n'écrit pas ce qu'il écrit sans avoir une hypersensibilité.
Et vous, Guy Savoie, je ne savais pas que vous le fréquentiez.
Mais vous savez qu'il a grandi dans la région de Bourgoin-Jallieu.
Oui. Il est né là-bas d'ailleurs.
Oui, il était enterré maintenant à Saint-Chef-en-Dauphiné, qui est à une quinzaine de kilomètres. Et il m'arrive parfois d'aller sur sa tombe, oui.
Vous avez choisi, vous l'évoquiez à l'instant, Guy Savoie, l'une de ses préfaces intitulée oui. L'apothéose du goût. Mm-hmm. Dar l'a rédigée pour le livre Ikem de oui. l'américain Richard Olney, paru en 1985. Un livre consacré à l'histoire du château d'Ikem, dont Frédéric Dar était grand amateur.
Grand amateur, absolument. Il avait je ne sais pas combien de dizaines de bouteilles de 1967, qui est un millésime mythique à château Ikem. Et il en avait des, je crois même des centaines. Oui.
Et alors ce texte est très très beau, on va vous entendre en lire un extrait, et il parle à un moment, c'est pas dans l'extrait que vous avez choisi, d'une musique qui lui monte à l'esprit lorsqu'il pleure, qui serait la musique des larmes.
Ouais. Oui, c'est tellement... Oui, il a une manière avec des mots très très simples de vous prendre au plus profond de vous-même. Alors le passage que j'ai choisi, parce qu'il parle bien sûr d'Ikem, mais il parle de l'ami avec lequel il va boire Ikem. Et là, il ne demande pas que Ikem soit un grand millésime, il demande que l'ami soit un grand millésime. Et je trouve ça formidable, parce que très souvent, une bouteille de vin, c'est vrai, c'est bien sûr avec quoi, mais la première question, c'est d'abord avec qui. Et là, c'est très bien dit dans ce paragraphe de l'apothéose du goût.
On vous écoute être la voix de Frédéric Dar, Guy Savoie.
Je sais, depuis des lustres, que pour célébrer dignement la grand-messe de l'Ikem, il convient d'être trois. La bouteille, un ami et soi. Encore faut-il un ami au grand millésime. Un ami capable d'apprécier pleinement le divin breuvage. Guitry disait qu'après du Mozart, le silence qui succédait était encore de Mozart. Après une gorgée d'Ikem, les instants qui suivent sont toujours d'Ikem. D'étranges et ineffables ondes s'étendent à l'infini dans votre bouche, gagnent votre cerveau, vous comblant d'une suave félicité. Il y a cela, cette noblesse exquise, descendue en vous comme une lumière, car l'Ikem est aussi lumière, de la lumière bue. Instants qui doivent rester rares. La chaste bouteille sur le plateau, si noble, avec son étiquette blanche, si somptueuse, dans ses ors variant d'intensité au gré des ans. Deux verres, deux amis, le silence, l'émotion un peu tendue par la perspective de ce qui se prépare. Il est nécessaire de regarder cette fabuleuse nature morte, ô combien vivante, pendant un grand moment comme on regarde un être aimé. Bien prendre conscience de cette parcelle de bonheur posée devant soi. Et puis on se saisit du réceptacle et l'on verse lentement. Le glou-glou de ce liquide-là ne ressemble à aucun autre. Il est à la fois lourd et léger, si velouté.
Moment d'extase
on
par Frédéric Dar.
Quand on le lit, on le boit.
C'est vrai. Est-ce que, Guy Savoie, ça vous arrive souvent d'éprouver l'exaltation décrite par Frédéric Dar, avec certains mets ?
Avec certains mets, alors encore une fois, le mets ne suffit pas, il faut qu'il y ait la compagnie, je dirais.
Seul, non ?
Non, seul, non, c'est difficile pour moi, c'est trop, comment dire, lorsque c'est bien, il faut partager. Il faut partager, et le... Bon, ça c'est pour la compagnie. Et puis je dirais l'identité, l'ADN de la gastronomie française, c'est ce mariage parfait que l'on peut avoir entre les mets et les vins. Et quand on arrive à faire ce mariage à trois, le mets, la compagnie et le vin, oui, ce sont des moments d'extase.
Et pour ceux qui ne boivent pas de vin, Guy Savoie, peuvent-ils trouver l'extase malgré tout ?
Bien, après, bon, je peux parler qu'avec mes repères à moi.
Évidemment.
Donc ceux qui n'ont pas ces repères-là, en fait, bon, on trouve forcément d'autres. Moi, j'ai vu des grands fumeurs sortir de dégustation, c'est-à-dire on était dans la cave, en Bourgogne, une cave prestigieuse en Bourgogne. Sortant de la cave en cours de dégustation pour aller fumer une cigarette pour retrouver leur propre repère. Le goût, c'est, on a tous sa papillothèque perso.
Papillothèque.
Perso, quoi, parce que, on a ses repères, on a ses propres repères, et c'est avec ses propres repères qu'on a des sensations. Vous savez, c'est, quand on vous dit de manger une pomme, c'est pas une pomme que je mange, c'est, je sais quelle variété va me procurer du plaisir, donc j'encourage tout le monde à être suffisamment curieux, pour goûter beaucoup de choses. Et lorsque vous avez goûté, c'est de ressortir ce qui vous procure tout simplement du plaisir. Moi, avec les pommes, bon, pour revenir à la pomme, j'aime la rainette du Canada lorsqu'elle est un peu mûre, juste avant qu'elle devienne un peu cotonneuse. Mais là, ça me donne des sensations de parce qu'en fait, je la mange, je la bois en même temps. Mais ça, c'est des propres repères et qui viennent de l'enfance. Parce que mon père étant jardinier, il nous donnait comme ça des repères. On partait tous les matins, mon frère et ma sœur, ils mettaient dans notre cartable une pomme pour la récréation. Et cette pomme, eh bien, il mettait cette pomme dans le cartable en fonction de la saison, parce que les pommes étaient cueillies en septembre ou octobre, et après, selon leur état de conservation, il nous mettait les pommes. Et moi, il savait que la Canada un peu mûre, c'était mon kiff, quoi, parce que il y avait des noms aussi formidables comme la Winter Banana et puis d'autres.
Enfin, Winter Banana.
Oui, la Winter Banana.
Ah oui, ça c'est la fête.
J'étais amusé par le nom plus que par la pomme.
Oui, je vous comprends. On va découvrir vos antidotes musicaux. Guy Savoy, voici le premier. Il est sorti en 1972.
Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même. Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes, et viens avec moi. On est partis tous les deux pour une drôle de vie. On est toujours amoureux et on fait ce qu'on a envie. Tu as sûrement fait le tour de ma drôle de vie. Je te demanderai toujours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Les autres t'aiment, tes drôles de poèmes, viens avec moi. Donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes, et viens avec moi.
Remède à la mélancolie sur France Inter, toujours en compagnie de Guy Savoy qui vient de nous faire écouter Chanson sur ma drôle de vie de Véronique Sanson. C'est la joyeuse insouciance du morceau qui vous touche.
Oui, c'est le rythme des paroles, la voix, quoi. On n'a pas envie que ça s'arrête.
On la remet alors. 5 fois de suite.
Allons-y.
Non, on change un peu de registre. Suite pour violoncelle numéro 1 de Bach, courante, interprétée par Rostropovitch. Les suites de Bach par Rostropovitch au violoncelle sont l'un de vos remèdes. Guy Savoy, il les avait interprétées lors d'un concert improvisé 2 jours après la chute du mur de Berlin, le 11 novembre 1989. Est-ce que vous les écoutez souvent ?
Très très souvent. Alors il y a un lieu, bon, j'ai une petite cabane perdue dans les montagnes, et là c'est vrai qu'un feu de cheminée, les suites de Bach... pourquoi pas un cigare et, et un grand cognac ou une chartreuse, et c'est vrai que c'est un moment sublime. Ouais.
C'est un client à vous qui vous a converti au cigare, Guy Savoy. Vous n'aviez jamais touché à une cigarette?
Non, j'avais jamais touché à une cigarette, j'ai toujours pas touché à la cigarette, de temps en temps un cigare, oui, parce que j'avais trouvé le cérémonial, lorsque ce convive avait sorti son cigare, à l'époque on pouvait fumer dans les restaurants, et j'avais vu un peu cette complicité qui s'était établie entre ce convive et son cigare. Il avait même reculé sa chaise de 20 cm, je pense, pour ne pas importuner les autres convives autour de la table. Et là, il y a eu un moment, il y a eu une transformation là aussi, une sérénité s'est installée, et j'ai essayé, j'ai compris ce qui se passait à ce moment-là dans les complexités aromatiques, dans les sensations du toucher, parce que parfois le cuisinier est assez frustré parce que la cuisine, elle ne se touche pas. Je crois que le seul ingrédient que vous touchez vraiment, et ce qui est très agréable, c'est le pain. Après, tout le reste se fait avec une fourchette ou une cuillère et tout. Alors que le cigare, tout le temps de la dégustation, vous l'avez dans les doigts. Et ce rapport sensuel avec la cape du cigare participe au plaisir de la dégustation.
Lorsque vous écoutez dans votre cabane perdue dans la montagne, Guy Savoy, Bach, en fumant un cigare et en buvant de la chartreuse, à quoi pensez-vous?
Eh bien, je pense à Rostropovitch, je pense à la musique, et je pense que la vie est belle, voilà, tout simplement.
Ah bah justement, en parlant de ça.
Et si, 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 la vie est belle. Si, 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 le monde est bon. Bon, 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 mademoiselle, allez, ne le prenez pas sur ce ton. Quand je vous dis que la vie est belle et que le monde tourne rond bien rond. Si, 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 la vie est belle, mais oui. Si, 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 le monde est bon. Car il suffit d'une fille et d'un garçon pour qu'il joue avec la terre, pour qu'il roule avec la terre, pour qu'il jongle avec la terre, comme avec un ballon. Ballon.
Si, 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 la vie est belle, ouais. De Gilbert Bécaud. Votre idée anti-spline, Guy Savoy, est aussi simple que radicale. Elle est pas belle la vie. Voilà, je vous cite. Est-ce que vous l'avez toujours pensé, ou est-ce que vous êtes entraîné? Est-ce que ça se cultive?
Je sais pas si ça se cultive. Oui, non, mais ça, je crois que ça se décrète. Et puis, je crois qu'il faut, profiter des bons moments. C'est-à-dire que moi, j'ai la chance aussi de faire un métier où on est en permanence dans le concret, en prise directe avec la terre et la mer. Vous savez, ça aussi, c'est important. Ça permet de garder les pieds sur terre.
Et c'est dans le moment présent aussi.
Oui, non, mais dans l'instantanéité ensuite. Mais voilà, donc tout ça. Et puis de voir, encore une fois, de cette occasion, des convives qui ont l'air, qui sont heureux. Donc tout ça, c'est du plaisir, quoi. On est dans un morceau de planète un peu différent. Oui.
Dans votre ouvrage autobiographique, Guy Savoy, Savourer la vie, sous-titré Souvenirs joyeux, vous vous qualifiez de résolument positif et vous dites « J'ai fait disparaître de ma mémoire la totalité des petits et gros soucis que j'ai affrontés, à l'exception d'un seul qui demeura gravé dans un coin de ma tête, sans doute jusqu'à mon dernier souffle. » Je ne vais pas vous demander, par pudeur, ce que c'est, mais j'aimerais savoir comment est-ce qu'on fait disparaître de sa mémoire les petits et gros soucis. Est-ce qu'on peut le décréter à nouveau, comme vous venez de l'évoquer?
Oui, je pense qu'on le peut, parce qu'on a souvent des... souvent des moments joyeux, heureusement, et il faut se recentrer sur ces moments joyeux. Mais ça, vous savez, j'en ai peut-être pris conscience, en fait, à l'école de rugby, tout simplement, vous savez.
Vous en avez fait pendant de longues années.
Pas de très longues années, parce que dès que je suis rentré en apprentissage, malheureusement, j'ai été obligé d'arrêter ce sport, dans lequel j'avais des sensations formidables, et j'ai toujours des sensations en tant que spectateur. Vous savez, ce sport qu'on dit assez rude, vous permet en permanent sur 80 minutes, d'avoir des moments où vous pouvez, comme on dit vulgairement, prendre un marron, et puis, 3 minutes après, faire une belle action qui vous permet soit de marquer un essai, soit d'en faire marquer un. Et là, voilà, donc, et vous gardez le souvenir de cet essai. Vous gardez pas le souvenir du plaquage monstrueux que vous avez pris 3 minutes avant. Et je crois que c'est en permanence. Voilà, je suis... pas forcément optimiste, mais positif, mais en permanence.
Sans vous faire violence.
Sans faire violence, non. Non, le positif, c'est de se dire, allez... Et très souvent, le négatif débouche sur du positif. Si on reste disponible hein, et parce qu'il faut, parfois ne pas se laisser complètement ensevelir dans le négatif. Il faut garder un peu la tête au-dessus.
Pas facile.
Et puis d'essayer de regarder quel moment ou événement positif va se produire et qui va vous remettre en selle, quoi.
Donc c'est un mouvement délibéré.
C'est un mouvement délibéré, absolument.
Quand vous avez une idée nouvelle, il y a un sillon énorme qui est créé par les lieux communs. Et qu'est-ce que font les commentateurs quand ils vous posent des questions, que vous avez écrit quelque chose? C'est d'essayer de faire retomber dans le sillon du lieu commun l'idée nouvelle que vous avez eue. Bon. Donc c'est vrai que les situations dans lesquelles vous êtes un peu en anticipation sur ce qui va se passer sont des situations qui vous mettent facilement dans des positions paranoïaques.
Interview de l'avocat Daniel Soulez-Larivière pour l'APEC, l'association pour l'emploi des cadres. Votre citation anti-spleen Guy Savoy vient de ce fidèle convive de votre restaurant.
Ouais.
Maître Soulez-Larivière, c'est vous accrochez à vos poubelles et ne voyez pas les trésors à côté de vous. À nouveau, c'est l'idée de changer l'angle du faisceau de son regard.
Absolument, c'est le verre à moitié plein et non pas le verre à moitié vide. Et c'est vrai qu'on a, enfin, on est, moi, je suis convaincu qu'on habite le plus beau pays du monde, qui offre le plus de paramètres pour y vivre heureux. Donc c'est vrai que j'ai pas envie de m'accrocher aux poubelles. C'est vrai, j'ai envie de regarder tous les atouts, tous les trésors qu'il y a autour de nous, et de me dire je vais vivre avec ces trésors. Mais les trésors, c'est une promenade dans Paris, et puis repérer une porte qui est plus belle que les autres, c'est un balcon qui est mieux végétalisé qu'un autre. Enfin, c'est tout ça les trésors.
Et si par exemple on est
un marché sur lequel vous voyez des produits, et toujours moi les produits, lorsque une époque j'avais un restaurant en Asie, et les avions qui arrivent d'Asie arrivent assez tôt le matin, vers 6-7 heures du matin. Mais mon premier réflexe, c'était d'aller, j'habitais à l'Étoile, c'était d'aller sur le marché Poncelet. J'avais besoin de voir ce marché pour retrouver l'ADN France, quoi. C'était, pour moi, c'était vital de me remettre dans le bon sens, quoi, dans le bon sens français, voilà.
Et Guy Savoy, lorsqu'on habite par exemple dans un endroit qui ressemble à une poubelle, parfois on y est contraint, il y a plein de villes de France qui sont sublimes, plein de petits villages qui sont sublimes, et puis il y a des endroits où on est entouré de laideur. Oui. Comment est-ce qu'on accède à cette beauté que vous décrivez? Vous pensez vraiment qu'on peut toujours le faire quoi qu'il arrive, puisqu'en fait vous parlez de beauté, donc c'est gratuit.
À pied, vous faites 5 km, et en 5 km, vous sortez de pas mal de choses. Hein. Je veux dire.
Donc c'est une action à nouveau,
une
décision.
Moi je trouve que la marche justement est quelque chose de formidable. Et c'est en cela aussi que la France est magnifique. Sur une journée de marche, vous pouvez voir des choses telles qui représentent aller 25 km, on va dire en moyenne pour quelqu'un qui veut flâner. Je veux dire, vous y voyez des choses tellement différentes. Et c'est en cela que ce pays est formidable.
Et vous, Guy Savoy, vous ne vous êtes jamais pris en flagrant délit de regard sur poubelle?
Alors si j'ai un regard sur une poubelle, qu'est-ce que je fais? Bon, si c'est quelque chose qui est vraiment un truc, ben je me baisse, je ramasse. Et puis
littéralement. Voilà. Ce sont des poubelles littérales.
Absolument.
Mais
non, mais oui, bien sûr qu'il y a. Mais non, mais j'essaye malgré ça de dire qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour que ça s'arrange.
Mais c'est toujours dans l'action, en tout cas. Il n'y a pas de complaisance.
Non, il n'y a jamais de résignation. Il y a toujours de la rébellion, absolument.
Dans un instant, nous parlerons de Chien et d'Iris, juste après le titre Sisyphus d'Andrew Bird dans la playlist France Inter.
Did he jump or did he fall as he gazed into the morning mist? Did he raise both fists and say to hell with this jest? Let the rock roll. Let it go, let it crash down low. There's a house down there, but I lost it long ago. Down there, but I lost it long ago.
gets the moderates. Those who sit recalcitrant and taciturn, you know I'd rather turn and burn a scale instead of fist, yeah. Where's my accomplice? So take my hand, we'll do more than stand. Take my hand, we'll claim this land. Take my hand and we'll let the rock roll.
Remède à la mélancolie sur France Inter avec Guy Savoie. Vous avez choisi deux œuvres picturales. La première, c'est une sculpture en bronze réalisée en 1951. C'est un chien de la haute. C'est le chien de Giacometti dont le modèle fut le lévrier de Picasso. Est-ce que vous pourriez décrire ce chien?
Alors ce chien, je ne sais pas. Bon, bien sûr, on le verrait vivant. On dirait, tiens, ce chien est maltraité. Mais je dirais, sous les doigts de Giacometti, il a quelque chose de sublime, quoi. Il va à l'essentiel. Il a cette forme tellement loin du chien en bonne santé, mais il est esthétiquement beau. Voilà. Après, vous pouvez pas expliquer. Moi, j'ai pas le talent de Frédéric Dard pour expliquer les sensations. Sensations, j'ai envie de les vivre. J'ai envie de les vivre, et puis c'est perso, quoi.
Je comprends. Bah, on arrête l'émission si vous voulez. Guy Savoie, il y a une figure historique à laquelle vous auriez aimé ressembler, c'est le peintre Jean-Michel Basquiat. Pourquoi?
Alors non, je ne sais pas si j'aurais aimé ressembler à Jean-Michel Basquiat.
Ah bon, j'ai lu ça dans une interview.
Non. Sa peinture, oui. Lui, non, parce que bon, on est vraiment à l'opposé, quoi. Je veux dire, je suis plutôt pied sur terre, je ne touche à aucune substance. Enfin, tout va bien. mais c'est une vie incroyable, quoi. Cette espèce de fulgurance et c'est pas pour moi un rêve de vie, en tout cas.
Alors, je me suis trompée. Ouais. J'ai rapporté un mauvais propos. Ça m'arrive souvent en ce moment.
Mais peut-être que ce jour-là, j'avais envie de dire des bêtises.
Ou peut-être que le journaliste a écrit n'importe quoi.
Je sais pas, ça arrive.
Mettons la faute sur les autres. Soyons de bonne foi.
Ça arrive.
Oui. Guy Savoie, l'inspiration pour un plat peut venir d'un tableau ou d'une exposition?
Ça peut venir de plein de choses, de la vie en général. Alors, si je dois décrire le cheminement d'un nouveau plat, c'est d'abord une envie. Et cette envie, c'est vrai, elle est suscitée par plein de choses. Je vous dis, ça peut être bien sûr la vue des produits, mais oui, une expo, un musée, une galerie, enfin, ou une porte, ou un paysage. Il y a un plat que j'ai fait en rentrant de Bretagne, parce que j'avais fait une randonnée en Bretagne, et je voulais retrouver tout ce qui se passe quand l'océan vient de se retirer, enfin à marée basse, où il y a ces mélanges à la fois animal, végétal et diode. Et voilà, j'ai eu l'envie, donc cette envie a donné l'idée, et l'idée donne le plat. Voilà, c'est le cheminement, je dirais, normal.
Et alors, Guy Savoie, qu'est-ce que vous évoque un autre de vos remèdes à la mélancolie, le tableau Les Iris de Van Gogh, réalisé par le peintre un an avant sa mort en 1889, et c'est un massif d'iris du jardin du monastère Saint-Paul de Mosol à Saint-Rémy-de-Provence qui abrite un asile où Van Gogh séjourne.
Alors vous en savez plus que moi, parce que j'ai touché, parce qu'on parle toujours des tournesols et tout, et lorsque je me suis retrouvé devant cette toile, justement, il y a ce côté tout à l'heure, Frédéric Dard disait, en parlant de nature morte, ô combien vivante. Et là, ces iris, puisqu'ils sont dans, on voit la terre, donc, je veux dire, cette nature morte, ô combien vivante. Et c'est ça, en fait, qui m'a touché dans ce tableau. Et qui me touche dans ce tableau.
Flâner est une science, c'est la gastronomie de l'œil. Se promener, c'est végéter, flâner, c'est vivre. Flâner, c'est jouir, c'est recueillir des traits d'esprit. C'est admirer de sublimes tableaux de malheur, d'amour, de joie, des portraits gracieux ou grotesques. C'est plonger ses regards au fond de mille existences. Jeune, c'est tout désirer, tout posséder. Vieillard, c'est vivre de la vie des jeunes gens, c'est épouser leur passion.
Extrait du chapitre 11 de Physiologie du mariage de Balzac, lu par Laure Grand-Besançon sur 6 études pour la main gauche seule de Camille Saint-Saëns. L'activité qui vous met en joie, Guy Savoy, c'est la marche. Et vous nous avez donné une phrase extraite du livre que je viens de citer pour l'illustrer. Flâner est une science, c'est la gastronomie de l'œil.
Oui, je crois que bon, mais sans le savoir, je ne savais pas que flâner, c'était aussi un peu de gastronomie, et celle de l'œil, donc. Mais dans la gastronomie, enfin, celle que je pratique, moi, il y a l'œil. L'œil a aussi beaucoup d'importance, bien sûr. Je crois que c'est la cuisine fait appel, bien sûr, à tous les sens, hein. Le toucher, la vue, bien sûr, l'odorat, l'ouïe, parce que quand on dit, je sais pas, une poêle, un beurre chante, tout ça est une, d'ailleurs, on a beaucoup d'ustensiles qui empruntent au vocabulaire de la musique, hein. Le fourneau devient le piano, toutes les casseroles deviennent la batterie de cuisine. Enfin, il y a beaucoup de termes similaires.
Alors là, j'hésite à aborder avec vous, Guy Savoy, soit des tableaux modernes, puisque vous venez de me dire en antenne que vous auriez aimé en parler un petit peu, ou rester dans la flânerie et la marche et parler du fait que vous avez fait un morceau du pèlerinage de Compostelle.
Oui, enfin, entre autres, un morceau, mais entre le puits et conque, les spécialistes apprécieront. Et puis d'autres, après, moi j'ai pris justement, c'est en faisant cette étape que j'ai pris le goût, et toutes les années, avec des amis, on se prend une semaine et on choisit un lieu. Ça peut être le Val d'Orcia en Toscane, c'était il y a 3 ans, la Bretagne il y a 2 ans, et puis le Tour du Monde au Brac l'année dernière. Et puis voilà, c'est ça, je crois qu'on a, on est en prise directe avec la nature. On a le temps de voir les choses, puisque c'est au rythme de la marche, et on s'aperçoit, je l'ai dit tout à l'heure, que sur une journée de marche, on a la chance d'habiter un pays où il se passe beaucoup de choses différentes en quelques kilomètres.
Guy Savoy, vous préférez maintenant parler des tableaux modernes ou de l'écossage de petits pois? J'ai découvert que c'était l'un de vos remèdes dans Savourer la vie.
D'écosser les petits pois, oui, bon, ça, vous savez, c'est très reposant d'écosser les petits pois. Et puis il y a un côté, je sais pas, là aussi il y a beaucoup de sensualité dans les petits pois. Mais c'est le vert petit pois, la couleur d'un de mes artistes préférés, qui est Fabrice Hibert. Et justement, il y a un de ses grands tableaux. J'aime aussi parler de ça. Un tableau qui s'intitule La montée des eaux. Et là aussi, où il y a tellement de force et tellement de, mais à la fois de la force et de l'optimisme, quoi. Ça reste joyeux. Ou bien Fabienne Verdier, que j'avais repéré il y a quelques années à Bruges. Elle avait fait une magnifique exposition en parallèle avec les grands maîtres flamands. Et j'avais été fasciné par cette ceinture de Saint-Luc. En rouge et noir, je l'ai toujours dans la tête. Et si elle m'écoute, chère Fabienne, tu sais que je rêve toujours de la voir.
Guy Savoy, est-ce que vous pensez aussi à une autre des composantes de votre existence, qui est qu'au lendemain de vos 16 ans, un test d'orientation, un psychologue qui vous assure que vous n'êtes pas fait, une psychologue qui vous assure que vous n'êtes pas fait pour un métier manuel, et encore moins le secteur de l'alimentation?
Oui, c'est à la fois, on pourrait en, bon, j'ai décidé d'en rire, mais c'est dangereux lorsqu'à 15 ans, vous avez déjà le doute, lorsque tout le monde vous dit que, bon, quitter l'école pour rentrer en apprentissage, c'est pas très glorieux, pour faire un métier manuel. Donc, voilà, et ça en rajoute, je dirais, au doute, ça en rajoute un peu à l'humiliation, parce que Moi, j'étais plutôt content de ne pas prendre la même voie que les autres. Et voilà, mais bon, toujours cette rébellion plutôt que la résignation. Et j'ai décidé que, bon, que vous voulez pas que je fasse, je vais vous montrer, quoi, tout simplement.
Moi, Guy Savoy, vous avez magistralement prouvé le contraire. Et en fait, je voulais qu'on termine sur
ça. J'ai surtout pas d'amertume. Cette dame à qui je me souviens parfaitement, comme si c'était hier, je lui avais dit tout simplement, ce n'est pas en me faisant bouger des cubes pendant 10 minutes que vous allez m'enlever une idée que j'ai en tête depuis des années.
Je voulais finir sur ça, Guy Savoy, parce que je voulais que les auditeurs entendent qu'il faut être sa propre autorité.
Je pense,
oui. Et on l'oublie facilement.
Je pense, non, mais alors, il faut, c'est très bon d'être rebelle quand on sait ce qu'on veut faire. Hein, moi, j'étais encore une fois dans la rébellion positive. Je savais ce que je voulais faire.
Décidément, positif. J'en ai entendu parler. Merci beaucoup, Guy Savoy, d'être venu dans cette émission.
C'est déjà fini?
Oui.
Merci. Merci.
Votre maison mère, le restaurant Guy Savoy, se situe à la Monnaie de Paris, au 11 quai de Conti, dans le 6e arrondissement. Les autres adresses sont sur votre site internet, chers auditeurs. La programmation musicale, les remèdes sont sur le site de l'émission, comme toujours. J'espère que votre âme est aussi réjouie qu'une gommette Pompadour. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h.